Julia Kristeva, vous étiez à la réunion d'assises le 27 octobre, il y a quelques jours, et vous avez dit, entre autres, à un journaliste, « Pour nous, les non-croyants, que je préfère appeler humanistes, cette rencontre donne l'occasion de mettre en valeur la nouveauté que représente l'humanisme. Je fais le pari que sa refondation est possible. » Vous pouvez nous expliquer ?
Cela paraît paradoxal, en effet, parce que l'humanisme est un mot qu'on emploie souvent, mais je pense qu'on n'en saisit pas vraiment le sens, d'une part, et d'autre part, les ambitions de l'humanisme ont été parfois surévaluées, parfois se sont effondrées, ont beaucoup déçu, et parfois même les humanistes n'osent pas se dire humanistes. Un certain nombre de philosophes ont mis en question même la prétention de l'humanisme, Heidegger parmi d'autres. D'autres philosophes comme Sartre revendiquent l'humanisme. Donc on ne sait pas trop bien ce que c'est l'humanisme. C'est la raison pour laquelle, à la première rencontre du Parvis des Gentils, qui a précédé les rencontres d'Assises, j'ai intitulé mon intervention « Oser l'humanisme ». Et j'ai essayé d'expliquer la généalogie de ce mouvement et sa radicale innovation à partir des Lumières. Alors, la généalogie de ce mouvement, j'étais surprise et heureusement surprise d'entendre que le pape Benoît XVI la revendique récemment dans un discours à Berlin, je crois, où il fait référence à cet humanisme inhérent à la culture européenne, à ses sources gréco-romaines, notamment dans la législation concernant les droits de la personne. Il a beaucoup insisté aussi sur la déclaration des droits de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à notre culture européenne. Nous n'en sommes pas assez fiers. Et il y a aussi le deuxième mouvement dont je me réclame, qui est la coupure du fil avec cette tradition humaniste ancienne par les Lumières. Cette coupure du fil de la tradition s'appelle sécularisation. On est humaniste, mais on ne croit pas en Dieu. Alors, c'est ça qu'il faut justifier, expliquer et en tout cas préciser avec les nouveautés que ça rapporte.
Alors justement, je pense que le discours que vous avez fait à Assises permet cette clarification. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire qu'est-ce que vous entendez par « l'humanisme nous apprend à soigner les hommes et les femmes » ?
Oui, l'humanisme, par rapport à cette tradition, et en tant que nouveauté, n'est pas un système de règles. C'est une interrogation permanente. Je reviens là-dessus parce que cette idée d'interrogation a été reprise par le pape aussi. Il a dit en substance aux catholiques dans sa déclaration finale qu'ils ne s'interrogent peut-être pas assez sur la profondeur et l'étendue de leur foi. Et il nous a fait, à nous, humanistes, le cadeau de penser que nous faisons cette interrogation, même si, de son point de vue, nous n'arrivons pas à l'ultime fin qui est le divin. Mais j'insiste là-dessus, et je vais répondre à votre question, sur le fait que l'humanisme est une rupture permanente, une interrogation permanente. Et je pense que c'est très spécifique à la tradition grecque, juive et chrétienne, de se poser des questions, de rompre avec ce qui est passé, de renouveler les choses. Dans une version longue de mon texte, j'ai un peu insisté là-dessus. Ça, c'est très important parce que l'humanisme doit se refonder dans cet esprit d'innovation. La créativité, ça consiste à s'emparer quand même de la tradition, à ne pas l'oublier, à l'apprivoiser, si je puis dire, à l'assimiler, à la connaître le mieux possible. En l'occurrence, connaître l'histoire du christianisme jusqu'à ses excès mystiques, et c'est ce que j'ai essayé de faire concernant Thérèse d'Avila. Et en même temps, de se dire, mais comment cette expérience-là, on peut, non pas la répéter telle qu'elle, mais l'adapter aux singularités nouvelles, à ce qui se passe de particulier dans ce monde. Et je rejoins votre question, soigner. L'humanisme, dis-je à un moment de mon intervention, consiste à développer un soin amoureux d'autrui. Et je pense que l'humanité souffrante, et elle continue à l'être malgré les différents progrès de la science, nous montre des états limites de la personne et du globe qui méritent qu'on s'en occupe pas seulement par la loi. La loi, c'est formidable, il faut continuer à faire de nouvelles lois, mais les lois s'appliquent, s'exercent par des personnes. Ces personnes, si elles n'ont pas ce que vous appelez, ce que j'appelle aussi l'expérience intérieure qui consiste à se relier avec la souffrance d'autrui, à pouvoir la partager par une identification profonde qui est au fond du lien amoureux, mais aussi s'en distancier pour l'interpréter, pour en comprendre le sens, pour trouver le moyen d'être solidaire avec cette souffrance et cette personne dans un pacte social et non pas isolé dans un coin où on ne fait que de la charité pour les malheureux, mais essayer de modifier le lien social par l'intégration dans ce lien social des gens souffrants mais qui ont aussi des créativités nouvelles. Mais c'est ça que j'appelle soigner avec une attitude de participation amoureuse à la misère d'autrui.
Alors, vous avez parlé de Thérèse d'Avila. Vous avez fait un livre qui s'appelle « Thérèse, mon amour ». Comment est-ce que vous articulez ce que vous venez de dire et tout ce que vous avez découvert chez Thérèse d'Avila, et aussi l'autre point que vous soulignez dans votre discours, l'humanisme est un féminisme.
Thérèse a été pour moi une révélation. Je ne connaissais que la statue du Bernin et ce que Lacan dit de la jouissance féminine qui est insatiable et qui dépasse le corps pour se dépasser soi-même, c'est déjà beaucoup. Je ne connaissais que cela. Et quand on m'a proposé de faire un livre sur elle, c'était un choc qui a duré longtemps parce que j'ai vécu, si vous permettez l'expression, avec cette femme pendant 10 ans, en la lisant évidemment. Alors, c'est très difficile de résumer un livre qui est devenu énorme, 600 et quelques pages, parce que j'ai voulu donner des citations d'elle, raconter sa vie et aussi la présenter du point de vue d'une personne comme moi qui la vit avec elle et qui la lit aujourd'hui.
On peut dire qu'il l'a côtoyée.
Qu'il l'a côtoyée absolument et qui essaye de se mettre à sa place, de la comprendre et de voir comment elle vivrait aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire, ce qui m'a frappé beaucoup? Par exemple, Todo Nada. Tout, le tout et le rien, qui est quelque chose de fondamental dans l'expérience mystique, d'identification avec la totalité du divin et de son sens, et en même temps le doute permanent et la possibilité d'annuler tout ça, et de, même d'en rire, et de s'en distancier, de s'en libérer. C'est quelque chose que peut-être le chrétien de base n'ose pas faire, mais que le mystique le fait. Il y a aussi sa conception de l'amour. Elle dit « Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps ». Et c'est pourquoi elle détonne. C'est une mystique qui parle comme ça de sa jouissance, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais si on dit que le Verbe s'est fait chair, il faut essayer jusqu'au bout de cette chair et ses capacités et pouvoir les transcender, c'est-à-dire le sublimer dans mon langage. Thérèse est allée jusque-là. Et puis, autre chose scandaleuse, qu'elle dit, je crois que l'amour ne doit pas être stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça rejoint le discours du pape sur le voyage. Une de mes héroïnes dit « je me voyage ». Thérèse dit ça, c'est-à-dire si l'amour n'est pas stationnaire, ça veut dire qu'en me connaissant moi-même, il faut que je traverse toutes les étapes et toutes les demeures qui me constituent, que je me voyage à travers mes limites, que je traverse mes limites, mais aussi que je puisse me voyager à travers l'interculturalité, on dit aujourd'hui, la pluralité du monde, les gens qu'on rencontre, des handicapés aux Chinois en passant par vous et moi. Donc tout ça, cette brave dame, cette petite moniale du XVIIe siècle, elle a absolument bien compris.
Comment vous articulez l'humanisme est un féminisme?
Moi, ça me paraissait très clair et vous avez raison de poser la question parce que ça étonne encore même mes amis féministes. Déjà, au XVIIIe siècle, l'humanisme, nouveau style, l'humanisme des Lumières, tel que j'essaie de le refonder, s'était accompagné d'un intérêt pour le corps de la femme, l'écriture de la femme. Il y a eu les libertinages d'abord suite à l'âge baroque au XVIIIe siècle français. Et puis, les grandes femmes philosophes des Lumières, pour ne citer qu'une, Émilie du Châtelet. Ensuite, vous avez tout le mouvement des femmes qui se sont révoltées tout au long du XIXe siècle, les féministes de femmes XIXe siècle, qui essayaient déjà de trouver des lois pour la liberté des femmes. Les Chinoises, on ne connaît pas assez, mais le mouvement bourgeois chinois, fin XIXe, début XXe siècle, a donné beaucoup de place aux femmes chinoises, notamment, je pense, en raison de cette place très particulière qu'occupe le duo taoïsme-confucianisme dans la spiritualité chinoise et l'égalité supposée, mais néanmoins proclamée sans qu'elle soit réalisée entre les hommes et les femmes, à partir de yin-yang, ce que chacun connaît dans la mentalité chinoise. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas des droits de l'homme en Chine, mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour les droits des femmes et le gouvernement n'ose pas les réprimer trop. Et elles s'intéressent beaucoup aussi à la spiritualité occidentale. Il y a ça, et puis il y a le mouvement de Simone de Beauvoir, qui était une catholique en rupture de ban. Et la définition qu'elle fait de la liberté, elle dit il faut se transcender soi-même. Mais on se transcende à l'horizontale à travers le genre humain. C'est une différence entre les deux humanismes, mais c'est une différence qui n'aplatit pas l'expérience intérieure.